Pour ce culte de rentrée, je vous propose de partager un mot avec vous, un mot qui nous permettra de faire le bilan de cette année académique terminée, et surtout un mot qui ouvre cette nouvelle année académique. Ce mot, c'est la grâce. La grâce de Dieu. La grâce, c'est l'amour de Dieu manifesté envers tous les hommes. Dieu témoigne de la bonté même envers ceux, surtout envers ceux qui ne s'en sentent pas dignes. Dans sa grâce première, Dieu vient à notre rencontre. Il nous cherche. Il nous appelle. Dans sa grâce deuxième, il nous apaise et il nous bénit. Troisièmement, dans sa bonté ultime, il nous accueille. Il nous accueille même à sa table et il prend soin de chacun de nous. Ces trois étapes de la grâce, ce chemin de grâce, nous le découvrons dans le deuxième livre du prophète Samuel, au chapitre 9. Ce texte est sans aucun doute l'une des plus belles illustrations de la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans ce deuxième livre de Samuel, David vient de traverser un temps de lutte, un temps de combat et un temps de deuil. Il vient tout juste de perdre Saül et son ami Jonathan dans des conditions tragiques. À peine le temps de recevoir l'onction à Hébron et le combat continue entre la maison de David et celle de Saül. S'ensuit la guerre dans laquelle il sort vainqueur. D'abord, une guerre contre les Philistins, ensuite, une guerre contre les Moabites, puis, enfin, une guerre contre les Édomites. Et au début du chapitre 9, nous sommes donc là, dans un temps de repos. David traverse un interlude de paix et de tranquillité. Il prend naturellement conscience de la bonté, mais également de la grâce dont il a bénéficié pour en arriver là. Et il veut prendre le temps à son tour d'exercer cette grâce qu'il a reçue. Et David se souvient. Il se souvient de l'alliance qu'il avait faite avec son grand ami Jonathan et surtout de la promesse que David avait faite à Saül, son ennemi. Il avait juré à son ennemi Saül de ne jamais détruire sa postérité après lui. Un jour donc, David dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'use de bienveillance avec lui à cause de Jonathan ?» Il y avait là un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba et on le fit venir auprès de David. Le roi David lui dit « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit « Je le suis. moi ton serviteur. » Alors David dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que j'use envers elle de la bienveillance de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan. Il a les jambes estropiées. » Le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Alors le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir à Lodébar. Et c'est ainsi que mes fils Bochette, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès du roi David. Il tomba la face contre terre, se prosterna. Et David lui dit, « Mes fils Bochette. » Il répondit, « Je suis ton serviteur. » David lui dit, « Sois sans crainte, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Je vais maintenant te rendre toutes les terres de ton père Saül. Et à partir d'aujourd'hui, tu mangeras à ma table tous les jours. » Alors Mephibosheth se prosterna et lui dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton seigneur tout ce qui appartient à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras le sol pour lui, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu rentreras les récoltes afin que le fils de ton seigneur ait du pain à manger. » Quand Mephibosheth, fils de son seigneur, mangea en permanence à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Tsiba dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » David avait dit, « Mephibosheth mangera à ma table comme l'un des fils du roi. » Or, Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait en permanence à partir de ce jour à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Que le Seigneur bénisse pour nous la lecture de sa parole. Ainsi, nous voyons dans ce texte la première étape du chemin de la grâce. Ce chemin de la grâce que David décide d'emprunter, et ce premier chemin de grâce, c'est celui de l'appel. David interroge les uns et les autres pour savoir s'il existe quelqu'un envers qui il peut réaliser sa promesse. Il va donc trouver Tsiba, serviteur de la maison de Saül, qui va effectivement lui indiquer qu'il reste un descendant de Jonathan, Mephibosheth. On remarque que c'est le roi David qui est ici à l'initiative de la rencontre, ce qui fait de cette histoire une histoire hors norme. C'est qu'un roi, le grand roi David, va dépenser toute son énergie à la recherche d'un homme. Un homme qui nous semble insignifiant. Qu'est-ce que cet homme a fait pour mériter tant d'attention? Qu'a-t-il d'aussi précieux à offrir au roi David? Qu'est-ce que cet homme a de spécial? Apparemment, rien. À tel point que Mephibosheth va se comparer lui-même à un chien mort, à un chien crevé. C'est dire le regard que Mephibosheth porte sur lui-même. Et pourtant, David va le chercher parce qu'il a fait la promesse à Saül. Et de la même manière, la promesse de Dieu est pour chacun de nous. Nous, les humains, nous, les faibles, nous, les inconnus, nous, les sans importance, la promesse de Dieu qui fait grâce est pour nous. Certains ou certaines peuvent douter de l'attention que Dieu porte au monde. Certains ou certaines peuvent penser ce matin, peuvent douter de l'attention que Dieu porte sur lui, sur elle. Et je relisais cette semaine le livre de Dietrich Bonhoeffer, ce théologien allemand, décapité à Berlin-Spandau par les nazis. Il a terminé ce livre dans sa cellule à Berlin, et Dietrich Bonhoeffer dit à un moment donné dans ce merveilleux livre que je suis prêt à prêter à celui ou à celle qui me le demandera, Le prix de la grâce, voici ce qu'il dit. Pourquoi mettons-nous des bornes à Dieu? Pourquoi disons-nous dans une fausse humilité, Dieu ne saurait venir à moi, il est trop grand et moi sans importance? Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour cette terre ou sur cette terre. Dieu et son royaume se trouvent dans un au-delà éternel. Quelle humilité pourrait prétendre déterminer des limites à l'activité du Dieu qui meurt et qui ressuscite? Et j'aime cette phrase de Dietrich Bonhoeffer. C'est ce Dieu lui-même qui est venu à notre rencontre. C'est ce Dieu lui-même qui ce matin t'appelle par ton nom. Remarquez ce que fait David. Il appelle Mephibosheth. Et ce dernier lui répond, voici ton serviteur. L'appel est un appel personnel, nominatif. Et Dieu fait de même. Il t'appelle ce matin par ton nom. Dieu n'est pas ce grand maître de l'univers qui joue au dé l'avenir de l'humanité. Il vient en personne, en Jésus-Christ, marcher au milieu de nos faiblesses. Il porte avec nous le poids de notre humanité. Il est venu dans nos chemins, dans nos difficultés les plus extrêmes pour nous chercher. Le roi David apprend que Mephibosheth habite dans la maison de Makir, à Lodébar. Et ce terme géographique est vraiment très intéressant. Lodébar, en hébreu, cela veut dire absence totale de pâturage. Cet homme que David cherche habite dans un lieu sec. Il habite dans un lieu désert, un lieu de désolation, un lieu dans lequel la terre est aride, sans vie. C'est un homme qui s'est retiré de la vie pour échapper à ce roi qui va peut-être suivre la tradition des vainqueurs. Car la tradition veut que le vainqueur cherche à tuer tous les descendants du roi qui vient d'être vaincu. Cela signifie pour nous que jusque dans nos Lodébars, dans nos sécheresses, dans nos extrêmes, dans nos éloignements, dans notre souffrance, dans notre épreuve, Dieu vient nous chercher. Dieu nous interpelle. Dieu nous ramène à lui. Et c'est cela, frères et sœurs, la première étape de la grâce que Dieu nous offre. Dieu nous cherche et il nous appelle. Et puis il y a une deuxième étape. l'apaisement et la bénédiction. Qui, ce matin, entre nous, ne comprenons pas la crainte de Mephibosheth? Il s'inquiète parce que s'il est convoqué au palais, c'est que le roi va le tuer. Il a peur de ce roi. Ce roi qui n'a aucune raison de s'intéresser à lui, de le laisser vivre. Et surtout, de laisser vivre la descendance de son pire ennemi. C'est une espèce de mauvaise graine potentielle. Et il faut la détruire avant que cette graine se développe. Et devant David, Mephibosheth tremble. C'est si vrai que David est obligé de lui dire « Sois sans crainte, n'aie pas peur. » Le texte hébraïque dit littéralement « Arrête de trembler. » Je veux user de bienveillance envers toi. À cause de ton père, Jonathan. Et c'est ainsi que David apaise le fils de son ami. Et c'est un tout autre chemin qui s'ouvre devant lui. Et je dis, frères et sœurs, qu'il en est de même pour chacun d'entre nous. Dieu était en Christ, précise l'apôtre Paul, réconciliant le monde avec lui-même. Il a établi la paix et proclamé l'amnistie. La paix que Dieu nous donne est une marche sur le chemin de la grâce. Cette paix, ce n'est pas un produit artificiel, éphémère. Elle nous vient directement du roi des rois, de Dieu lui-même. C'est le fruit de l'esprit que Dieu renouvelle jour après jour. Cesse de trembler, dit David. Et Dieu te dit ce matin, mon enfant, cesse de trembler. Cesse de trembler parce que ce matin je veux user de bienveillance envers toi à cause de mon fils Jésus-Christ. David, dans son acte de bienveillance, ne s'arrête pas à l'apaisement. Il rend à Mephibosheth toutes les terres de son grand-père Saül. Sur le chemin de la grâce, Dieu nous comble. Il nous comble de bien. Il veut nous combler de bien spirituel. Et la paix, c'est l'un de ses biens. C'est l'un de ces dons que Dieu veut nous offrir. Il veut ce matin nous donner sa paix. Vous voulez d'autres fruits ? L'amour ?